Décryptage, Marie Cazadebé.
Il fait nuit depuis quelques heures à Singapour et nous sommes à la veille d'un événement déjà qualifié d'historique, la rencontre entre Kim Jong-un et Donald Trump. Mais si le dirigeant nord-coréen, à l'image de son régime, reste cloîtré, le président américain tweete son excitation et son équipe communique sur son optimisme, comme Donald Trump le fait déjà depuis plusieurs jours.
Je crois vraiment que nous avons le potentiel de faire quelque chose d'incroyable pour le monde.
Au centre de cet événement, évidemment, les ambitions atomiques de Pyongyang et l'objectif affiché des États-Unis, c'est la dénucléarisation de la Corée du Nord. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Quel sacrifice la représenterait pour les Nord-Coréens? Et qu'attendrait-il en retour des États-Unis et de leurs voisins? Notre invité va nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Benjamin de Couverture.
Bonsoir.
Merci d'être en studio avec nous. Vous êtes maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique. C'est un institut français d'expertise sur les questions de défense internationale. Et vous êtes vous-même spécialiste de la non-prolifération et du désarmement nucléaire, entre autres. Que sait-on concrètement aujourd'hui de l'arsenal nucléaire de la Corée du Nord ?
Eh ben, malheureusement, on n'en sait pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on se dit qu'ils ont possiblement entre 20 et 60 charges nucléaires, ce qui est quand même assez imprécis, assez vague, qu'ils ont des missiles de courte et de moyenne portée qui peuvent sans doute emporter ces charges, et qu'ils sont en train de développer un missile intercontinental dont ils ont fait deux essais au mois de juillet dernier, avec des résultats assez mitigés encore.
Et à quelle puissance on pourrait comparer la Corée du Nord pour bien comprendre finalement de quoi elle est capable?
Eh bien écoutez, pour le moment à peu près à personne, à aucune puissance, parce que celle qui aurait pu être la plus proche est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui disposait d'un peu moins d'une dizaine d'armes nucléaires, mais totalement constituée avec des charges, des vecteurs. Et donc cet arsenal était terminé, était clos, était opérationnel. Alors que sur le caractère opérationnel d'un supposé arsenal nucléaire nord-coréen, on ne sait pas grand-chose. On ne sait pas s'ils sont capables de monter des charges nucléaires sur des têtes, on ne sait pas si elles sont montées, et on ne sait pas si leurs armes nucléaires totales sont fonctionnelles. Et je pense qu'eux-mêmes ne le savent pas non plus d'ailleurs.
Mais les derniers essais, les derniers tirs de missiles n'ont pas été suffisamment concrets là pour qu'on comprenne un peu de quoi ils étaient capables.
Si, ils étaient assez concrets, et du point de vue balistique, on a un certain nombre d'informations, mais c'était des missiles sans charge. Et ce qu'on sait de leur programme nucléaire, c'est que leur dernier essai est un essai puissant, hein, de plus de 150 à 200 kilotonnes, ce qui est assez considérable. Mais en revanche, on ne sait pas s'ils sont capables de monter ces charges nucléaires sur un missile. Donc, on ne sait pas exactement ce qu'ils ont, si vous voulez. On ne sait pas si, à partir du moment où ils décident d'envoyer un missile nucléaire, ils sont capables de le faire, ils peuvent le faire.
Alors, les États-Unis l'ont répété à plusieurs reprises, et vous allez l'entendre d'ailleurs dans la bouche de Mike Pompeo. Leur objectif, c'est la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Est-ce que cela sous-entend également la Corée du Sud ?
Alors, ça a l'air de le supposer, effectivement. Si on se pose la question des armes nucléaires en Corée du Sud, il n'y en a plus. Il y avait des armes tactiques américaines qui ont été rapatriées par les Américains en 1991. Par conséquent, quand on parle de dénucléarisation de la péninsule, on parle, pour ce qui concerne la partie sud, des actifs stratégiques américains, aéroportés et navals, qui peuvent croiser dans la région. Et donc, on peut légitimement penser que la Corée du Nord ne veut plus que autour du sud de la Corée se meuvent des forces nucléaires américaines.
Est-ce que là, on parle du fameux parapluie qui est censé protéger la Corée du Sud et le Japon, le fameux parapluie antinucléaire américain ?
On ne parle pas du parapluie antinucléaire, on parle du parapluie nucléaire américain, c'est-à-dire de la dissuasion élargie des États-Unis qui fonctionne dans le cadre des alliances bilatérales américaines. République de Corée et Amérique et Japon. On parle effectivement bien de ça.
Quelques exemples alors, vous parliez peut-être de sous-marins nucléaires au large, quoi, de la Corée du Sud qui serait prêt finalement à intervenir.
Absolument, comme les bombardiers stratégiques américains en partance des bases nucléaires américaines dans la région, l'océan Pacifique, sont capables de partir et donc d'assurer des missions, s'il le faut, nucléaires, et qui assurent la dissuasion nucléaire pour la République de Corée et pour le Japon, raison pour laquelle ces deux États ne se lancent pas et n'ont pas de raison normalement de se lancer dans un programme nucléaire militaire.
Et selon vous, quand les deux parties nord-coréennes et américaines parlent de péninsule, vous pensez qu'ils ont en tête les mêmes choses l'un et l'autre ?
Oui, je pense qu'ils ont en tête la même chose. Maintenant, toute la question est de savoir si les États-Unis peuvent tout simplement se défaire de leurs actifs stratégiques dans la région, dans la mesure précisément où ce sont ces actifs stratégiques qui assurent la dissuasion élargie pour la République de Corée et pour le Japon. Donc, par conséquent, toute la question va être de savoir dans quelle mesure cette dissuasion élargie peut demeurer sans être perçue par la Corée du Nord comme une menace à son existence.
J'évoquais Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain. Écoutez comment il présentait les ambitions de Washington à Singapour le 1er juin dernier.
L'objectif du président Trump et de ce gouvernement est constant et bien connu. La dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible de la péninsule coréenne. Il s'agit d'un défi difficile. Il reste beaucoup de travail à accomplir. Le président Trump et son gouvernement comprennent très bien la complexité du problème. Pendant de longues années, la Corée du Nord a considéré que son programme nucléaire était le moyen de garantir la sécurité nécessaire du régime. Ils devront choisir un chemin complètement différent de celui qu'ils ont emprunté depuis des décennies.
Benjamin, haute couverture, je voudrais qu'on revienne ensemble sur les termes utilisés par Mike Pompeo. Il parle de dénucléarisation complète, vérifiable, irréversible. Alors qu'est-ce que ça veut dire déjà dénucléarisation complète ?
Eh bien, ça veut dire, en fait, les termes sont assez simples, il faut les prendre comme ils sont utilisés dans le langage courant. Ça voudrait dire, si l'on s'en tient à la lettre, la totalité des capacités d'emport des armes nucléaires et... Les charges nucléaires elles-mêmes, de la confection du combustible jusqu'à la mise en œuvre de la tête elle-même.
Vérifiable, ça veut dire que la Corée du Nord doit accepter que des inspecteurs, par exemple, de l'Agence internationale de l'énergie atomique viennent sur son sol ?
Absolument, qu'ils viennent sur son sol et qu'ils soient capables de vérifier le démantèlement de toutes les étapes de fabrication des armes nucléaires dans ce qui aujourd'hui constitue à peu près 25 à 30 sites sur place. Mmh. Donc ça signifierait que la Corée du Nord procède d'abord par une déclaration préalable de tout ce qu'ils ont et ensuite que des inspecteurs, qu'ils viennent de l'AIEA ou que ce soit un corps d'inspecteurs ad hoc, hein, d'ailleurs ça reste à négocier, puissent aller dans tous les sites vérifier que la dénucléarisation est en cours dans un processus qui reste à mettre en œuvre.
Et irréversible, ça veut dire que finalement, du jour au lendemain, on ne peut pas remettre en route toute
Absolument.
La machine.
Ça veut dire que ce qui est détruit. En particulier, par exemple, quand on a vu les explosions des sites d'essais nucléaires de Punggye-ri il y a quelques semaines, rien ne dit que c'est irréversible. On peut tout à fait imaginer que, par exemple, ces entrées ont été juste détruites avec quelques explosifs à l'entrée, qu'il y ait des entrées secondaires, des entrées tertiaires de ces sites. Et par conséquent, tant qu'il n'est pas vérifié que ces sites ne peuvent plus jamais être des sites d'essai, que ce soit irréversible, eh ben, ça ne suffira pas aux inspecteurs et ça ne suffira pas aux États-Unis comme la communauté internationale.
Le secrétaire d'État qu'on vient d'entendre reconnaît que le défi est difficile. Si la Corée du Nord acceptait demain d'abandonner son programme nucléaire, on imagine l'immensité du chantier. Vous le disiez tout à l'heure, on ne sait déjà même pas finalement de combien de sites la Corée du Nord dispose. C'est un travail immense.
Alors c'est un travail immense dont on peut imaginer qu'il faudra entre 15 et 20 ans sans doute pour le mener à bien, parce que c'est extrêmement long de dénucléariser un pays, de dénucléariser des sites, de détruire des sites de fabrication du combustible, d'enrichissement de l'uranium, etc. Et la question que pose cette dénucléarisation, essentiellement, c'est de savoir si les inspecteurs, si tant est qu'il y ait des inspecteurs, puissent avoir accès à l'ensemble des sites. Mmh. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des sites clandestins qui demeurent non déclarés par Pyongyang au départ, auquel cas on serait dans un marché de dupes et dans un faux sentiment de fausse sécurité. Mais en tout état de cause, si la Corée du Nord joue vraiment le jeu avec honnêteté, avec bonne foi, il faut effectivement s'attendre à un processus très long, d'une quinzaine à une vingtaine d'années, avec des inspections permanentes et des rapports permanents, un petit peu comme l'AIEA le fait depuis janvier 2016 en Iran, tous les trois mois.
Est-ce qu'on peut revenir en quelques mots à l'histoire de la conquête nucléaire de la Corée du Nord ? Quand est-ce qu'elle s'est lancée dans cette aventure et quel était le but au tout départ ?
Mais écoutez, cette aventure qui est une aventure civile et militaire a commencé sans doute à la fin des années 60 avec l'aide des soviétiques à l'époque. Les Coréens accèdent au traité sur la non-prolifération de l'arme nucléaire comme état non doté en 1985 et signent avec l'Agence internationale pour l'énergie atomique, un accord généralisé de garantie en 1992. Et en même temps, à partir des années 80, il se lance dans un programme nucléaire et dans un programme balistique. Donc, cette histoire, raisonnablement, on peut penser aujourd'hui qu'elle a une bonne trentaine d'années, peut-être un peu plus, disons 40 ans.
Et il y a eu une vraie accélération tout dernièrement, où elle remonte à plus longtemps. On parle souvent de l'arrivée de Kim Jong-un fin 2011, avec vraiment une avance exponentielle hein, dans les recherches
oui,
et les démonstrations.
À l'évidence, il y a eu une augmentation vraiment sensible des efforts menés depuis à peu près 2006. Donc ça fait depuis 10 ans. Depuis une dizaine d'années, il y a vraiment une marche forcée du pays à l'obtention de l'arme nucléaire, avec une accélération sensible depuis l'arrivée au pouvoir en décembre 2011, début 2012, du petit-fils qui est aujourd'hui au pouvoir. Et ça, c'est vrai sur le plan nucléaire et sur le plan balistique, avec les deux programmes qui avancent parallèlement, de manière telle d'ailleurs qu'on n'aurait jamais pu l'imaginer. C'est-à-dire qu'on pensait qu'il mettrait beaucoup plus de temps, par exemple, à avoir un engin possiblement thermonucléaire, même s'il ne l'est pas et que c'est un engin à fission boostée, mais de 150 à 200 kilotonnes. Et on ne pensait pas qu'il pourrait faire deux essais d'ICBM en mois de juillet dernier. Donc de ce point de vue-là, ils ont leurré à peu près tous les services de renseignement.
Vous avez parlé de l'aide des soviétiques, mais alors aujourd'hui, ouais. Pour l'accélération justement de ce programme, qui peut-on voir derrière toutes ces avancées scientifiques aussi?
Oui, bien sûr. Alors écoutez, il faut d'abord bien comprendre que depuis bientôt 40 ans que le programme est mené, on a des générations d'ingénieurs qui ont appris de leurs échecs, qui sont extrêmement compétents et qui aujourd'hui, pour une bonne partie du programme, fonctionnent de manière indigène, de manière nationale, avec beaucoup d'efficacité. Et maintenant, pour le reste, pour ce qui concerne la modernisation de leurs derniers missiles, par exemple, à l'évidence, pour les moteurs, pour les combustions, pour les différents types de combustibles, les propergols solides, etc., on peut tout à fait imaginer, même plus qu'imaginer, qu'il y a des circuits de prolifération clandestine que la Corée du Nord fait activer. Ils en sont passés maîtres, avec différents... je dirais pas État, mais avec différents réseaux de scientifiques, d'ingénieurs, de militaires, dans des États qui, eux, sont des États qui maîtrisent des technologies balistiques ou des technologies nucléaires, à l'évidence. Maintenant, il faut avancer avec beaucoup de prudence, parce que rien n'est totalement avéré. On sait qu'il y a des filières russes, éventuellement des filières ukrainiennes. Qui est à la base? Naturellement, avec l'Égypte, il y a eu des choses, comme l'Égypte, pour pas mal de pays du Moyen-Orient, a alimenté, en particulier dans les technologies de missiles rudimentaire de Scud dès les années 80, pas mal d'autres pays, c'est une évidence.
Après donc plusieurs décennies d'avancées scientifiques, de démonstrations de force, peut-être que la Corée du Nord pourrait en tout cas changer de stratégie, c'est ce que l'on verra dès demain matin donc à Singapour. Yann Bennett travaille pour l'ONG d'aide au développement Chosun Exchange. Il revient tout juste d'un séjour à Pyongyang et il a été frappé par l'intérêt des Nord-Coréens pour ce sommet de Singapour.
Les Nord-Coréens que j'ai rencontrés semblent penser qu'organiser ces sommets est une bonne décision. Quand la visite à Pyongyang de Mike Pompeo a été annoncée, j'ai vu les gens s'amasser en grand nombre devant les journaux et les photos de la rencontre. Ils n'arrivaient pas à y croire. C'est quelque chose de nouveau. Les Nord-Coréens pensent qu'un véritable changement est en train de se produire et que ce ne sont pas que des mots.
Benjamin, haute couverture, le régime nord-coréen s'est vraiment bâti sur l'hostilité envers les Américains, les États-Unis. Comment Pyongyang pourrait-il justifier ce rapprochement de demain, et ne serait-ce qu'une poignée de main avec Donald Trump?
Bah écoutez, c'est une volonté du régime nord-coréen depuis fort longtemps d'arriver à avoir enfin un sommet au plus haut niveau avec les Américains, précisément pour pouvoir dire que la Corée du Nord dialogue directement avec l'ennemi historique, qui est aussi la première puissance au monde et la seule puissance. Donc ça avait été également une volonté du grand-père, une volonté du père. Et si le petit-fils y parvient, sait-on jamais, c'est demain normalement, ce sera une réussite historique en tant que telle, quel que soit le contenu de leurs négociations. Il s'agit pour ce petit pays, ce petite dictature, de se hausser au niveau des plus grands en dialoguant directement et non pas seulement dans le cours d'un processus multilatéral tel que les pourparlers assises par exemple entre 2003 et 2007. Là, on est vraiment directement au sommet au plus haut, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que le dialogue avec les Américains ne date pas d'il y a longtemps, parce qu'en réalité, ce dialogue bilatéral il date du début des années 90, avec des délégations constantes d'aller-retour, etc., mais pas à ce niveau-là, pas
pourquoi,
au niveau des chefs d'État.
Pourquoi ça n'a jamais fonctionné, Bush père, alors effectivement, avait inclus la Corée du Nord dans son axe du mal, donc forcément, ça a été assez mal pris par Pyongyang qui a repris donc son programme. Pourquoi ces tentatives n'ont pas fonctionné et qu'est-ce qui fait que demain, finalement, la situation sera un petit peu différente et donnerait un petit peu plus d'espoir?
Écoutez, ça n'a pas fonctionné tout simplement parce que les présidents américains, jusqu'à Donald Trump, ne le voulaient pas. Aucun d'entre eux n'a voulu donner un gage comme ça sans d'abord des signes de bonne volonté tangibles par la Corée du Nord. C'est pour la première fois un président américain accepte de voir son homologue, si je peux dire, nord-coréen, alors même que l'homologue nord-coréen n'a donné absolument aucun signe de bonne volonté, mais au contraire, s'est hissé au rang quasiment de puissance nucléaire, alors que tous les présidents américains prédécesseurs avaient dit non, prudence, nous n'accepterons quelque chose au plus haut niveau que quand des premiers signes de dénucléarisation auront été donnés de manière tangible.
L'abandon du site nucléaire auquel vous avez fait allusion tout à l'heure, je n'ai plus le nom en tête, ne suffit pas. Ne suffit pas, c'est pas ça. Ça peut pas être un geste de bonne volonté reconnu par Donald Trump comme une garantie au moins.
Écoutez, c'est un signe à l'évidence, mais c'est un signe politique. C'est-à-dire que sur le plan technique, dans la mesure où il n'y a pas eu d'experts nucléaires sur place, dans la mesure où on n'est pas pu aller après dans les différents tunnels nord, sud, est, ouest pour voir l'état des destructions qui avaient été occasionnées devant des journalistes, on ne sait pas ce qui a été fait. Donc c'est absolument pas un processus de vérification par les journalistes. C'est un tout petit peu de transparence, un tout petit peu, mais c'est surtout beaucoup de propagande.
On comprend donc ce sommet de Singapour, on comprend à quel point il est historique. Il a été annoncé début mars, à la plus grande surprise des Sud-Coréens notamment, que vous allez entendre.
Ce sommet Corée du Nord-États-Unis nous donne l'espoir que la réunification est possible. C'est vraiment bien. Je ne crois pas que le régime nord-coréen va vraiment accepter de renoncer au nucléaire. Mais le sommet en lui-même compte beaucoup pour la Corée du Sud.
Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est une excellente nouvelle. À l'origine, je n'aime pas Donald Trump. Mais il réussit à passer un accord avec Kim Jong-un, je vais changer d'avis sur lui. Peut-être que les deux dirigeants pensent qu'un accord est possible. C'est pourquoi ils veulent se parler.
Benjamin, haute couverture, partagez-vous plutôt le scepticisme de ce premier Sud-Coréen ou l'enthousiasme du second ?
Je partage plutôt le scepticisme. Je suis des sceptiques, disons. C'est intéressant ce qu'on vient d'entendre parce qu'on voit que les témoignages de la population coréenne mélangent les idées de traité de paix, de réunification, de dénucléarisation. Ce sont des objectifs qui sont très distincts les uns des autres. Et d'ailleurs, la position officielle sud-coréenne n'est pas à la réunification. Éventuellement, un traité de paix. Mais qui veut la réunification des deux États?
Ça ne pourra de toute façon pas se faire sans la Corée du Sud. Et elle ne fera pas partie de ce moment historique.
Non, pour le moment, elle n'en fera pas partie. Et pour le moment, de toute façon, c'est que ce moment historique, c'est vraiment un moment qui va se concentrer sur les capacités nucléaires et éventuellement balistiques du pays. Pour le reste, on est dans le cadre d'un processus de sommet intercoréen qui pourrait tout à fait amener à un traité de paix et à une intensification des relations entre les deux. Mais là, on va se concentrer sur la variable et sur les facteurs nucléaires et balistiques.
Il nous reste une grosse minute pour conclure cette émission. Tout à l'heure, vous disiez que finalement, cette poignée de main avec Donald Trump est déjà une énorme victoire pour Kim Jong-un. On espère que cela ne lui suffira pas. Mais qu'est-ce qu'il pourrait exiger en échange de la dénucléarisation? Finalement, qu'est-ce qu'il a à gagner?
Kim a à gagner l'ouverture d'un processus politique peu intrusif, peu contraignant, qui dure dans le temps, avec assez peu d'engagement technique et précis de sa part. Et c'est ça qu'il va essayer d'avoir. Et de l'autre côté, les Américains vont essayer d'avoir des signes tangibles de certification, de vérification, avec un objectif final de dénucléarisation. Et ça va être entre les deux qu'on va voir si un compromis est possible. Mais Kim, ce dont il a besoin, c'est d'un processus qui permette à son économie d'être moins exsangue dans les mois à venir et dans les années à venir, sans avoir à donner beaucoup de lest sur le programme balistique et sur le programme nucléaire.
Merci beaucoup, Benjamin Haute-Couverture, maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Merci à toute l'équipe de Décryptage, Eleonora Farad, Laura Vichenzi, Cécile Rogue et Claude Battista à la réalisation. Tout de suite, un nouveau point sur l'actualité.